Énergie. Énergéia, n'est-ce pas? Énergie, ah, le mot est lâché, ça y est. Ça fait 6 ans que j'attends avec impatience l'heure de cet après-midi. Énergie, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'énergie? D'énergie. Et la différence tout à fait extraordinaire entre l'énergie et l'entéléchie. Entelekeia. L'entéléchie. Voilà. Bon, ça, vous mettez ça bien ça dans votre tête, parce que rien que les mots sont quand même quelque chose d'extraordinaire à eux seuls. Et heureusement, qu'il va falloir regarder ce qu'il y a derrière, derrière ce baptême. Là, ça a été baptisé comme ça. Il faut absolument, absolument qu'il y ait quelque chose qui éclate dans notre compréhension, dans notre jugement, dans notre vie contemplative sur les réalités que nous apprenons. Auxquels nous sommes confrontés tout le temps, Dieu y compris, n'est-ce pas, pour voir cet enracinement de la perfection absolue qui nous habite, qui habite toute chose qui existe, et l'éclatement, la transcendance de ce qui existe dans toute sa perfection substantielle, actuelle, etc. On va voir ça, vous voyez, parce que ça c'est très important, hein, de faire la différence entre ce qui se passe de parfait en moi, le in, et le en, telekeia, en, ça veut dire dans. Oui. Donc, grec, latin, français. C'est beau. Grec, latin, français. Alors, ce qui se passe dans moi, ce qu'il y a de plus parfait en moi, c'est le plus parfait. Plus extraordinaire, le plus étonnant. Et c'est tellement imparfait ce qu'il y a dans moi que ça m'échappe. Tu te rends compte? C'est l'enracinement. Et puis, et puis, ce qu'il y a. Alors, ça, c'est. Vous me direz, il y a aussi le N là. Oui, mais ce n'est pas le N du in. Energeia, c'est aussi le haine, si vous voulez, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas ça qui est visé dans l'énergéia. Ce qui était visé dans l'énergéia, c'est toutes les autres perfections. C'est l'éclatement. On dirait aujourd'hui le rayonnement métaphysique de l'être. C'est une perfection qui n'est pas dans moi. Dans mon être. C'est quelque chose qui fait que le fait que j'existe me met dans un état de perfection qui est totalement en dehors de ce qui est dans moi. Et que pourtant, je porte. Ah, alors ça, c'est ce qu'on appelle, au fond, on va dire, en grec, on dit pros. Le fameux pros, très important, vous voyez, parce que si on fait ça, c'est pour comprendre, évidemment, plein d'autres choses, hein. C'est pas uniquement pour s'amuser à faire de la gymnastique, hein. Métaphysique, ça, gymnastique, métaphysique, autant faire du vélo dans ces cas-là, vous comprenez? On fait pas de la métaphysique pour l'efficacité, pour des choses, pour l'utilitaire, hein. C'est pas utile ce qu'on fait là, ça je peux vous dire, ce qu'on fait là, une utilité nulle. Mais si vous cherchez ici, en venant ici, l'utilité, eh ben vous pouvez aller dans une école de commerce, c'est aussi bien. C'est marketing. Hop, en avant. Ou alors psychologue, vous allez voir, psychanalyste. En avant. Voilà. Bon. C'est pas l'utilité qu'on cherche. Nous, on cherche la perfection, c'est pas pareil. On cherche la vérité. On cherche aussi le bien. On cherche la transformation. On cherche l'extase. On cherche quoi encore? On cherche l'autre. Alors, on est entièrement ce que dit Aristote. Aristote dit un truc que vous constatez tout le temps, c'est que l'homme, bon, nous, quoi, c'est la différence extraordinaire qu'on a avec la truie, c'est que c'est un truisme de dire ça. c'est que l'homme est la seule réalité qu'on constate dans notre univers, qui trouve son identité dans, en dehors de lui-même. C'est extraordinaire. La truie, une fois qu'elle a bien bouffé toute sa... elle trouve sa plénitude en elle-même. Elle a bien digéré. C'est extraordinaire. C'est comme les amoureux. L'amoureux, c'est pareil. Ils trouvent leur perfection, ils trouvent leur bonheur en eux-mêmes. Pas emmerdant, hein. Regardant, il faudrait peut-être que petit à petit, il crève ce plafond-là et qu'il ne s'enracine pas dans une perfection entéléchie, n'est-ce pas ? Ouais, c'est pas beau, hein, une perfection entéléchie, métaphysiquement, c'est pas beau. Et qu'il puisse découvrir et habiter la perfection, en ce sens que, hop, vous n'êtes plus. C'est pourtant bien vous, c'est bien votre être, c'est bien votre perfection à vous, mais elle n'est pas enracinée en vous, elle est totalement dans toutes les perfections autres que vous-même. C'est extraordinaire cette histoire de l'induction de l'acte. Ça, il va falloir qu'on fasse cette induction de l'acte. Prost, vert. On fait ça pour comprendre ce que c'est que nous, l'homme, comprenez ? Parce que si on roucoule tout le temps, le fiancé, la fiancée... Pardon, marié, marié. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, je peux pas m'appuyer sur toi, et tu t'appuies sur moi. Oh là là, ce sera toujours comme ça. Tintin, évidemment que c'est pas comme ça, heureusement. Heureusement. C'est dramatique, si on en est là, ça. Dramatique, ça. Et si tu t'appuies sur ta moitié là, et que l'autre moitié s'appuie sur toi, c'est un effondrement intérieur, tu vois, ça sera petit à petit, ça va s'effondrer intérieurement. Parce que ça ne s'appuie pas sur l'unité spontanée, n'est-ce pas ? Vous savez ça, à force que je vous le dise. Et l'unité spontanée est en dehors d'elle. En dehors de lui, totalement en dehors, n'a rien à voir. Alors on ne s'appuie pas sur elle, je ne m'appuie pas sur lui. Et dans l'amour, je m'appuie sur quoi ? Sur autre chose. Et cette autre chose, vous voyez, c'est une perfection, c'est une perfection à la fois spirituelle et métaphysique. Il y a quelque chose de métaphysique, vous voyez, dans l'unité spontanée. Si on voit que tout ce qui existe concrètement, si vous voulez, pas dans notre imaginaire, ce qui existe concrètement, moi j'existe, Dieu existe, vie contemplative existe, l'amour existe. Bon, pissenlit, différent. De toute façon, on ne fait pas la métaphysique à cause des pissenlits, croyez bien. Alors, à ce moment-là, je crois que là, ça y est, on a une porte d'entrée pour comprendre plein de trucs. Eh bien, Prost, au commencement était le Verbe. Aussi, on fait ça pour comprendre l'écriture. Et je peux vous dire que je voudrais insister peut-être trop aujourd'hui, mais ça ne fait rien, on a encore la fois prochaine pour faire l'induction de l'acte, mais... pour comprendre que vous ne pouvez pas, à mon avis, mais mon avis est très honorable, même s'il est en lui-même, ça, bon, vous ne pouvez pas rentrer dans le mystère de Marie si vous n'avez pas fait l'induction de l'acte. Ça, vous pouvez rentrer dans le mystère de Marie. Tout le monde peut rentrer dans le mystère de Marie. Le mystère de l'Immaculée. Les mystères de la Vierge. Comprendre l'Immaculée Conception. Je crois que tout le monde peut rentrer. Mais tout le monde ne peut pas y rentrer de manière contemplative. Ça, c'est peut-être l'épuration de l'intelligence par les actes successifs d'adoration continuellement qui permettent de comprendre de manière contemplative ce qui se passe dans la femme parfaite, notre mère, l'Immaculée. Bon. C'est une chose. Mais c'est une autre chose que de pouvoir faire surabonder l'Immaculée Conception et qu'elle puisse se communiquer à travers nous. Vous voyez ? Par exemple, il est impossible à un chrétien, théologien, mystique, de parler de Marie de manière à communiquer quelque chose d'elle, de sa grâce, de manière métaphysique, c'est-à-dire réaliste, buvable. Sinon c'est imbuvable, sous-entendu, sinon c'est imbuvable. S'il n'y a pas l'instrument, si votre intelligence n'est pas déjà purifiée et surtout épanouie, rendue parfaite grâce à ce travail que nous faisons. Il y a tout un aspect du mystère de Marie qui est incompréhensible et incommunicable si on n'est pas rentré d'abord dans ce qui ne, tout en étant à l'intérieur de nous, s'enracine dans le pros, dans ce qui est sort cette perfection en nous, vous voyez, mais qui fait qu'on est entièrement habité dans l'autre. Mais concrètement, de manière réaliste, ça. Tout ça, c'est peut-être de la théorie pour vous, mais au commencement était le Verbe. Vous voyez, c'est aussi pour comprendre le Verbe de Dieu et l'Écriture. Dans le principe, énarché, donc logos esti, dans le principe était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était prostantéon. Il était le Verbe, le Fils de Dieu, est prostantéon. Il y a quelque chose dans la relation entre la deuxième personne de la très sainte Trinité et la première personne de la très sainte Trinité qui est totalement immanente et en même temps totalement prostantéon. Le mystère de la très sainte Trinité, Dieu n'est pas à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, si vous êtes. C'est la grande révélation de l'Évangile aussi, vous voyez. Et à son axe ici. À son axe ici, entre l'energeia et l'entelekeia. Petit à petit, vous allez comprendre. J'espère beaucoup que jusqu'à maintenant, tout ce que je dis, c'est de l'hébreu. Mais justement, je voudrais que petit à petit, vous compreniez que ça devienne de moins en moins de l'hébreu, justement. Bon. Ben, les gens qui croient et qui vivent de l'union à Dieu. Qui vivent de l'union à Dieu, uniquement pour atteindre Dieu et vivre de ce que Dieu est en lui-même, si vous voulez. Un espèce de Dieu qui trouve sa perfection en lui-même, puis c'est tout, il s'arrête là. Dieu unique. T'embêtant. Parce que si vous vous arrêtez à l'entéléchie concernant le mystère de Dieu, vous ne pénétrez pas dans l'énergie au niveau de Dieu. Dans l'énergeia, au niveau de Dieu plus exactement, parce que l'énergie, maintenant, c'est pas très important. Et du coup, vous ne rentrez pas dans les relations trinitaires. Et comprendre que Dieu, il est parfait en lui-même, et c'est cette perfection qui fait qu'il est relatif totalement à un autre. C'est pour ça qu'il y a trois personnes, d'ailleurs. Le Verbe est prostantéon. Il est vert, il n'existe, il ne vit pas, il existe. Ben, il ne vit plus, enfin, il vit si parfaitement qu'il existe dans un acte pur. Il est relatif au Père. Et le Père, c'est pareil, sous-entendu, évidemment. Ce sont des relations subsistantes qu'il y a à l'intérieur de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Donc, c'est fait aussi pour comprendre le mystère de Dieu et pour pouvoir être capable. Une fois que notre intelligence contemplative est rendue parfaite par précisément cette vérité réaliste, parce que c'est ça, ce sens du réel, dans l'ordre de la perfection absolue, c'est réaliste. Alors à ce moment-là, concrètement, quand je rentrerai dans le mystère de Dieu, je serai imbibé de la lumière surnaturelle, de la grâce qui rendra parfaite ma vie contemplative et me permettra de comprendre parfaitement et de manière réaliste et concrète, je dis bien concrète, le mystère de la très sainte Trinité. C'est aussi pour ça qu'on fait la métaphysique. Voilà. Oh, il y a bien d'autres raisons, vous savez. Bien d'autres raisons. Parce que si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ça me fait comprendre le mystère de la relation entre la deuxième personne et la première, sous-entendez l'épouse, c'est-à-dire le fils, et le père, c'est-à-dire l'époux, vous avez tout compris. Et ça me permet déjà aussi de comprendre que je vais pouvoir avoir un certain type de perfection quant à la vérité dans l'ordre de l'amour avec entre l'homme et la femme. Sinon, je rentre dans une espèce de tout lumineux, merveilleux, mais c'est pas parfait, c'est pas humain. C'est du panthéisme affectif. Si je ne sais pas voir la différence entre l'intellect et l'énergie, je tombe dans les énergies. Vous voyez ? Ici, là, on a la nécessité moderne de faire la métaphysique parce que si on ne la fait pas, eh bien, ce qu'il y a de plus parfait en deçà de la perfection dans l'ordre métaphysique, vous voyez, ce qu'il y a de plus parfait, c'est ce qu'on vous propose dans le mystère de l'Antichrist, les énergies. Aristote dirait la dynamis. Ça, c'est pour les philosophes, là, les agrégés. Avant qu'ils nous désagrègent. Hein? Alors. Vous êtes d'accord avec moi, les philosophes, là, les professeurs de philosophie? Oui, tout le monde est d'accord? Aucune objection? Hop! Oh, ça va. Donc, si vous faites des objections, faites gaffe à moi. Mais très bien. Non, mais il faut qu'il y ait des objections, il le faut. Bon, alors, le carême, c'est aussi quelque chose qui s'enracine, vous voyez, on s'enracine dans la montée du carême pour rentrer dans le mystère de la résurrection. Il y a quelque chose de parfait dans le carême. Mais c'est quelque chose de tout à fait parfait. On doit vivre comme des... C'est la sainteté, le carême. Mais c'est une sainteté qui est toute déterminée par... qui a tout son poids dans la résurrection, qui est toute autre chose que le carême. À Pâques, vous savez ça. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait fait l'induction de l'ousia. L'induction de la substance. Ah, alors là, j'espère que vous avez fait tous, pendant le mois entier, tous les jours, au moins une fois, l'induction de la substance. Bon, je crois que ça ne fait pas de problème, faire l'induction de la substance. Bon, c'est du chinois pour toi? Toi, tu viens de Paris, donc la substance est difficile. Alors, pas commode, hein, Charlotte, hein? Alors, l'induction de la substance, c'est une chose très très importante, on est tout à fait d'accord. C'est pourquoi est-ce qu'on fait l'induction de la substance, vous voyez, finalement, où est-ce qu'on ne fait pas de l'induction de la substance pour que ça ait une utilité quelconque dans notre vie, ça c'est vrai. Mais c'est quand même utile quelque part. C'est quand même utile quelque part, en ce sens que grâce à l'induction de la substance, on voit que quand tu fais un jugement d'existence, que tu existes ou que quelque chose d'autre que toi existe, tu t'aperçois que ça ne s'arrête pas là. Parce que les gens, ils disent, d'accord. Hein? L'autre jour, j'avais une petite fille qui s'appelait Marjorie, elle avait 9 ans, elle dit, ma mère, elle ne veut pas que j'aille au catéchisme, etc. Je m'étais assis sur le trottoir. Bon. Ah, elle était là, petite fille s'arrête, elle dit, on va en discuter. Bon. Et elle veut pas que j'aille au catéchisme. Ah bon, elle veut pas que tu ailles au catéchisme. Bon, c'est bien. Ah, c'est bien. Et ben, t'as qu'à lui dire, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Pourquoi? Parce que on n'est pas croyant chez nous. Et moi non plus. Ah, je dis, ah bon, t'es pas croyante. Et chez toi non plus. Ah, bon. Dieu n'existe pas, peut-être. Enfin, je sais pas. Ah, bon, c'est bien. Alors, j'étais assis sur le trottoir, je me suis un petit peu mis, comme les Paul Bororo, là. Je me suis redressé, mais en restant un peu en position assise, comme ça, vous voyez. Là, comme ça. Très désagréable. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça, les Bororo, mais enfin, c'est pas grave. Non, ne vous inquiétez pas, je suis tombé sur la porte. C'est pas grave. Et là, j'ai dit, j'ai regardé les yeux comme ça, comme si j'étais le gourou du Mandarum. Et dit, regarde-moi. Elle m'a regardé. Et dit, touche-moi. Elle dit, d'abord elle se demandait qu'est-ce que c'est que ce mec était assis sur le trottoir. Alors, avec prudence quand même, elle me touche. Est-ce que j'existe, Marjorie? Est-ce que j'existe? Elle dit, bah, dis pas oui. Attends, retouche-moi. Elle me retouche. Elle dit, tu es sûr? Est-ce que j'existe? Elle dit, bah oui. Retouche-moi! Et tu es vraiment sûr que j'existe? T'es sûr que c'est pas... Elle me dit, bah oui. Ah oui, bah là, maintenant j'en suis sûr que tu existes. Alors je dis, bah alors... Mais n'importe qui, un enfant, un adulte, n'importe qui se promène dans la rue, vous comprenez, il fait un jugement d'existence. Et quand il fait un jugement d'existence, spontanément, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, je peux pas aller plus loin. Une fois que j'ai vu que le mec, il existe, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas aller plus loin que ça. Notre intelligence bousillée, les mecs. Bousillée. Pourquoi? Je dis, j'existe. Ah oui, alors? Bon, très bien. Ben, c'est pas la peine d'aller plus loin. Tu existes, puis c'est bon. Hein? On peut pas aller plus loin. Si, on peut. Et puis c'est pas la peine. Ça sert à quoi? Comme disait...
Hein? On ne peut pas aller plus loin dans l'attribution d'un jugement.
Ben, voilà, il existe, là. Ouais, mais je ne peux pas aller plus loin. Voilà, une fois que j'ai vu ça, bon, mais il existe. Je ne peux pas. Je peux pas comprendre ce que c'est qu'il y a... Bon, je peux comprendre, à la rigueur, si je suis médecin, comment fonctionne un corps. Essayer de comprendre comment fonctionne la cellule, tout ça. Même la cellule initiale, par exemple. Bon. Bon, je peux essayer de comprendre comment fonctionne l'amour. Dans sa genèse, son approfondissement, l'affectivité. Je peux essayer de comprendre plein de choses comme ça. Mais exister l'être, non, comprendre à l'intérieur, de l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, mettre un espèce de microscope extraordinaire. Comment est-ce que tu appelles ça, les fils qui mettent à l'intérieur pour regarder dans les veines, là, Non. Les endoscopes, endoscopie intérieure de l'être. Extraordinaire, endoscopie. Formidable. Oui, eh bien oui, tu peux, par l'induction, tu peux voir qu'à l'intérieur de l'être, tu rentres à l'intérieur de l'être. Et tu t'aperçois que tu découvres l'ousia. C'est extraordinaire, ça. Parce qu'à partir du moment où tu t'aperçois que oui, une fois que tu touches le fait que quelqu'un d'autre, que toi existe, que toi tu existes, que Dieu existe, que la réalité existe, toute chose qui existe d'ailleurs, tu sais qu'à partir de là, tu peux laisser tomber les accidents pour voir ce qui subsiste dans l'ordre de l'être. Et à ce moment-là, tu touches la substance. Mais ceci, si tu es capable de faire ça, et si tu t'habitues, tout le monde est capable de faire ça, mais si tu t'habitues à rentrer dans la lumière même de l'intelligence humaine, qui est capable de rentrer dans l'être, te détache automatiquement des accidents. Un accident n'est plus un drame pour quelqu'un qui est contemplatif, vous comprenez? C'est un accident, n'est pas la substance. Et quand tu vas à la messe, tu ne regardes pas si le prêtre, il est beau. Tu ne regardes pas si le prêtre... Il est bien habillé. Tu regardes pas si le prêtre, il a bien mis le corporal. En 4 au lieu de 5 ou 3. Tu regardes pas ça. Tu regardes pas s'il parle bien. Tu regardes pas ça. Tu regardes pas s'il rayonne comme Moïse en descendant du Sinaï. Tu regardes pas ça. Tu regardes la transsubstantiation. Quand tu regardes Jésus dans l'Eucharistie, tu regardes pas l'hostie en disant c'est merveilleux. Je crois que elle est... aujourd'hui, la messe était formidable parce que j'ai vu la lumière qui sortait de l'hostie. Ah, t'as vu un accident, embêtant. T'as vu un accident. Donc la messe est foutue pour toi. Mais comme ton intelligence a été purifiée par la métaphysique, t'as fait l'acte de foi, tu comprends? Et la lumière surnaturelle de la foi a habité ton intelligence contemplative, et tu as pénétré jusqu'à la transsubstantiation et les accidents. Et si jamais il y a une apparition, je te jure que s'il y a une apparition à ce moment-là, qui fait que l'hostie se transforme en visage de Jésus et qui commence à bénir à tout le monde, guérir tous les malades, etc., eh bien, tu t'en fous complètement. Ce n'est qu'un accident. Ce n'est pas la substance. Ce n'est pas la transsubstantiation. Ce n'est pas l'Eucharistie. Vous connaissez bien l'histoire de Saint Louis, roi de France, qui était là dans la chapelle. Il était devant le Saint-Sacrement. Et on vient lui frapper à l'épaule tandis qu'il était devant le Saint-Sacrement. Monseigneur le roi, Messire le roi, qu'ai-je ? Messire, le Seigneur, notre Dieu, daigne gratifier votre majesté d'une apparition. Elle est là. Dites à Monseigneur, notre Dieu, que je suis déjà avec lui. Je ne sais pas cette histoire, Saint Louis est extraordinaire, il y avait l'apparition là, dans le couloir. Dans le couloir. Il était là. S'en fout complètement. Voilà, bon, c'est un contemplatif. Messire Saint Louis, roi de France. Bon, alors voyez bien, donc là, découvrir la substance, comme c'est important, parce qu'on découvre que, mais oui, l'essentiel, le substantiel, et en même temps la réalité. Eh bien, elle est dans le fait que j'existe, dans l'être. Et si je ne suis pas capable de faire ça, où vais-je découvrir en moi la personne? Où vais-je découvrir dans l'autre la personne? Où vais-je puiser la possibilité de m'élancer pour la communion des personnes, puisque la personne m'échappe? Imbécile. Imbécilisme. Extraordinaire. Alors, c'est pour ça que cette induction de la substance, je vous en supplie, il faut que quand même tout en, vous refaites tout le temps votre jugement d'existence. Bon, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelque chose à l'intérieur de ce fait que j'existe. Je vais casser la tête sur la porte. Rentrer à l'intérieur et voir qu'il y a quelque chose de consistant, de facile à saisir, à voir. Et il y a un principe qui détermine tout. Et si les accidents sont là, c'est en dépendance, comme les branches. Et en ayant la substance, c'est tout. Et si j'ai une branche qui tombe, c'est pas grave. Mon enfant meurt, qu'est-ce que ça peut faire? Eh oui, c'est important au niveau des accidents. Si pour moi, il n'y a que les accidents, c'est terrible. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta vie n'a plus aucun sens. C'est pas... Si, il existe. C'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est... Il existe. C'est pas parce que Jésus est parti monter au ciel que c'est fini. Quoi. Ma vie n'a plus aucun sens. Enfin, faut être timbré. Comprenez, bon. Et tout le reste comme ça. N'est-ce pas? Alors ça, c'est très important. Et à ce moment-là, il faut que je m'habitue à voir la réalité. Le gros problème du monde dans lequel nous sommes, et de notre génération, c'est qu'on rentre dans un manque de réalisme effrayant. Alors, le seul secours que nous ayons, c'est de rentrer dans les espaces virtuels. C'est extraordinaire. Tu sais ce que c'est que les espaces virtuels? C'est devenu très à la mode. Maintenant, tu ne peux pas regarder la télévision plus de 2 heures sans entendre virtuel, 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 virtuel. On fait même des paroisses virtuelles. Des diocèses virtuels. Hein, ça, tu fais la bénédiction sur la virtualité du diocèse. Hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je croyais que la bénédiction tombait sur la substance de l'âme. Alors, cette espèce de manque de réalisme invraisemblable. Invraisemblable. Et alors, il faut se... Mais pas seulement les timbrés comme nous. Les autres aussi. Tout le monde tente d'histoire de virtuel. C'est incroyable, cette histoire. Virtuelle. Là, c'est vrai. Bon, alors évidemment, le règne de l'ordinateur, on a tous un ordinateur à la maison. C'est génial. C'est très utile. La métaphysique n'est pas utile, elle est nécessaire. C'est pas pareil. Alors, donc nous regardons ici qu'il faut absolument saisir à l'intérieur du fait que j'existe, qu'il y a quelque chose qui fait que de l'intérieur, elle subsiste. Il y a quelque chose qui fait subsister et qui fait que c'est lumineux, qu'il y a quelque chose qui est bien formé, si vous voulez, bien structuré. J'aime pas ces mots-là, mais enfin, je suis bien obligé de traduire, si je puis dire. Et je saisis la substance. Et à ce moment-là, je vois, après, petit à petit, je deviens petit à petit capable de voir ce qui est accidentel, ce qui est essentiel, ce qui est substantiel. Et ce qui dépasse la substance. Vous voyez, ce grand discernement extraordinairement important. Je répète. Donc, ce qui est accidentel, ça c'est une reprise de la dernière fois, si vous voulez, sauf qu'on n'avait pas eu le temps de le regarder, mais enfin, c'est pas grave. Ce qui est essentiel, ce qui est substantiel, et ce qui dépasse la substance. Ce discernement-là, vous voyez, ce discernement-là, il est indispensable. Vous savez, ceux que j'ai mariés, que ceux que j'ai éventuellement aidés à se préparer au mariage, je leur ai dit, on recule la date du mariage de 6 mois parce que vous n'êtes pas encore capable de toute évidence de faire distinction entre ces 4 aspects. Donc pas de mariage. C'est essentiel. C'est nécessaire. Hein? Quelque chose d'accidentel, on regarde des accidents. On regarde la signification spontanée. On regarde le point de vue ici du ton et du point ontologique et puis le dépassement, le don, le sacrement. Il faut quand même que je sois capable de regarder la distinction pour toutes les réalités, mais ça c'est très très important ça. Ce qui dépasse, le dépassement de la substance. Mais ça, si. Alors, vous comprenez, si vous dites, bon, ben d'accord, j'ai la vie, puis le fait que j'existe, bon, ben, arrêtons-nous là. Hein? On ne va pas faire des spéculations, hein? On ne va pas cérébraliser notre connerie. Bon. On ne va pas gonfler le monstre. Eh oui, attention. Attention. Si tu veux mettre une épingle dans la baudruche, si tu veux que le monstre se vide un petit peu, que cette espèce de cerveau se vide de toutes ces inutilités imaginaires, toutes ces constructions métapsychico-phénoménologico- dialectico- somnambulico- cataletoïdo- je sais pas quoi. Bon. Hein? Eh bien, il faut se décomplir de ça pour rentrer dans la vérité. Et ça, c'est très important. Bon, et ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais donc il faut en même temps qu'on dit donc ça, voilà, très bien. Il faut que je distingue l'essentiel du substantiel. Ça aussi, ça c'est très important. Il y a des choses qui sont essentielles, c'est évident. Je suis un homme. Je suis pas un hippopotame. Je suis un homme. C'est essentiel ça. Je suis un homme, je suis pas une femme. C'est essentiel. Mais ça, c'est ça, 99,8% et des poussières ne savent pas ce que c'est que l'essentiel. Ils n'arrivent pas à reconnaître en eux le point de vue de la similitude et le point de vue de la complémentarité. Ils ne savent pas. Impossible. C'est vrai? Et même quand ils sont mariés. Hein. Bon, ben d'accord, c'est un homme, c'est une femme, enfin c'est pareil, quoi. Hein, je l'aime, donc c'est normal qu'il m'aime, donc donnant, ça. Et non. Je suis un homme, je suis pas une femme. Je suis une femme, pas un homme. C'est essentiel. Alors, la substance, c'est la personne. Le dépassement de la substance. Alors, ça, c'est, voyez, c'est à partir du jugement d'existence qu'on puisse comprendre que ça ne s'arrête pas là, qu'il faut rentrer dedans et que du coup, tout trouve son unité, tout trouve sa place, tout s'ordonne, tout devient lumineux. Et en même temps, on se décroche de tout ce qui nous encombre. Et cette opacité, cette lourdeur, cette toute lourdeur qui fait que c'est dans les mains, difficile, je comprends rien. Petit à petit, se dégangue. Cette espèce d'acte de santé, vous voyez. L'acte de santé, la grande purification d'aujourd'hui, elle est nécessaire. Donc je dis bien, c'est pas utile, mais c'est nécessaire, retenez bien ça. Retenez toujours ça, accidentel, essentiel, substantiel, et puis on voit tout de suite qu'on ne peut pas s'arrêter à la substance. Parce que dès que j'ai découvert la substance, je vois que ça, il y a une subsistance. Dès que j'ai découvert que le fait que j'existe, que quelqu'un existe, il y a quelque chose qui, de l'intérieur, fait qu'il subsiste dans l'ordre de l'être. Et que cette subsistance assume l'essentiel en lui, l'accidentel en lui, notamment le corps, par exemple, pour un être humain. Et donc, elle porte l'individuation. Elle fait qu'il est unique. Et ce caractère unique de l'intérieur du fait que quand je touche, il existe, quelque chose d'unique m'échappe. Et cette connaissance, cette évidence que l'individuation ouvre la porte à il y a quelque chose qui m'échappe, m'oblige de voir qu'il y a encore un horizon éperdu de connaissances dans l'ordre métaphysique qui va encore plus loin que la substance. Et c'est l'induction de l'acte qui va nous permettre de voir ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui va, application en théologie. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que le mystère du Verbe incarné dans la chair du Christ. Le Christ, dans sa nature humaine, assume... Le Christ, pardon, dans sa nature humaine, est assumé par le Verbe de Dieu. Dieu s'est fait homme. L'homme subsiste en Dieu. C'est de l'ordre de la substance, l'unité qu'il y a entre l'homme et Dieu dans le Christ. L'humanité du Christ a une relation avec la divinité du Christ, et cette relation est une relation de subsistance, engendrée, non pas créée. L'humanité du Christ est engendrée, et l'unité de l'ordre de l'être du Christ, c'est pas créé. C'est l'être de Dieu. C'est Dieu en tant qu'être. Et donc la subsistance de l'être premier fait subsister l'humanité du Christ en lui-même. C'est donc bien du côté de l'ousia qu'on peut regarder le point de vue donc de la Concile de Constantinople, 5e siècle, de l'union hypostatique, subsistance de la nature humaine dans le Verbe de Dieu. Vous voyez ? Ah oui, eh ben oui, mais Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est extraordinaire ça. Et il s'en va. Et à la place de ça, il y a quelque chose qui dépasse le point de vue de la substance, ce dépassement, on va le trouver effectivement dans le mystère de Marie, je vous signale, le mystère de l'Immaculée Conception, qui fait que je pénètre dans l'unité hypostatique du Christ, Jésus, je vis ça, je suis dedans, ça y est, je suis installé, je découvre, ça y est, je deviens contemplatif, je vois ce que le Verbe de Dieu voit dans son cœur et son intelligence illuminée par la lumière, et je vois que là, ça y est, tout commence, et on peut continuer à l'infini dans une perfection qui dépasse tout le temps, continuellement, l'Immaculée Conception. Le fruit de l'union hypostatique. Et l'Immaculée Conception, vous ne pourrez pas en parler si vous ne saisissez pas le dépassement de la substance. Il y a quelque chose d'autre. Et c'est vrai, Jésus, il nous laisse... Ça ne veut pas dire que l'Immaculée Conception écrase le Christ, n'est-ce pas ? Non, parce que... Écrase le Christ en disant... Dégage, c'est moi que voilà. Pas du tout. C'est pas son style. Mais voyez bien que si vous n'avez pas fait l'induction de l'acte, vous pourriez en arriver là à penser quelque chose comme ça. C'est ce que pensent les gens qui n'aiment pas trop le mystère de Marie, parce qu'ils disent, il y a un danger. Elle va, le Christ. Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la métaphysique de l'acte. Donc, si on veut ici vivre de l'Immaculé, mais réellement, pas par la dévotion imaginaire, etc., qui gonfle, qui... patatoïdement, le mystère de l'Immaculée conception dans ta conception, et pas dans sa conception. Alors à ce moment-là, ça devient épouvantable. Alors tu vas, ah, si tu fais ça, je suis sûr que tu vas voir des hosties qui s'illuminent. Le père Patrick qui va dire la messe, oh, vous avez des lunettes, sur le... vous savez pas la messe, vous avez des lunettes comme je sais pas qui. Bon, c'est ça que vous regardiez, de quelle couleur mes lunettes. C'est intéressant. Alors, j'ai su bien vite les lunettes à ce moment-là, comment ? Elles n'existent pas. C'était un accident. Alors, on continue. Alors, vous voyez bien qu'ici, introduction, induction de l'acte. C'est très important, vous voyez ça. C'est très important. Sinon, impossible, vous allez voir, vous avez remarqué aussi que à chaque fois qu'on a fait une retraite sur les sacrements portent sur quoi? Sur la réalité formelle de la présence réelle et essentielle à travers les accidents des sacrements. Belle blague. Alors, mais si on s'arrête là, mes mecs, arrêtons, moi j'ai fait l'induction de la jalousie, c'est bon, terminé. Allez, on passe à un autre sujet. Ah, c'est le meilleur. Justement, il faut dépasser la substance. Les sacrements sont un moyen, c'est tout. C'est un moyen. Vous avez vu, à chaque fois qu'on a regardé l'Eucharistie, la canour, la confession, le sacrement sacerdoce, etc., le baptême, tout ça. À chaque fois, puis on avait vu, je crois que c'était l'an dernier, je crois qu'on avait regardé la reste, tous les sacrements, non? C'est l'an dernier? Je sais plus. On s'aperçoit qu'une fois que la présence substantielle, sacramentelle, disparaît, ah, ça y est, c'est le fruit du sacrement qui apparaît, et c'est la perfection propre au sacrement, alors, qui apparaît. Et c'est ça, c'est dans laquelle tu dois t'immerger, que tu dois vivre actuellement. Si tu n'es pas capable de faire ça, clac, les énergies. Et voilà. C'est énergie, c'est inside out. Tu vois, c'est pas du tout N-pros. C'est pas N-pros, c'est inside out. Tu vois, tu es à l'intérieur de l'impasse. Moi, tout ça, c'était pour vous rafraîchir la mémoire qu'on avait quand même fait l'induction de la substance la dernière fois. Vous comprenez qu'il y a autre chose aussi. Quelle heure il est là, 4 heures. On va quand même essayer d'avancer. Hein, d'accord. Parce que jusqu'à maintenant, bon, tu voulais faire l'induction de l'acte. Voilà, vous me dites oui. Je vous supplie que si vous, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez immédiatement. Je ne veux pas que qui que ce soit ici, à un moment où je parle, si à un moment vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Vas-y. Bon, il a tout compris. Donc tout le monde suit jusqu'à maintenant parfaitement bien. Bon, ça va? Pas d'objet. C'est pas d'objet. Si, mais une précision, moi je veux bien. On est là pour. Je suis pas à faire mon cinéma, je veux dire. On est là, c'est pour ça. C'est parce que si. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous bloquez, si vous coincez sur un truc, après, vous voyez, moi je continue, et hop, ça y est, vous êtes largué au bout d'un certain temps. Alors faut pas, hein.
Un principe et une détermination. Parce que sinon, on ne comprend rien.
Ah, j'ai effacé.
En fait, ce qu'on recherche, c'est la cause. de l'être.
Oui, mais ça, bon, on a bien vu la dernière fois que c'était une cause, j'espère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que l'être existe? J'existe, alors voyez, ça aussi. Je vais répéter ce que j'avais dit la dernière fois par rapport à ton histoire de cause-principe et détermination. Effectivement. Pourquoi? Parce que depuis des années que vous entendez certaines personnes parler ici, n'est-ce pas? Eh bien, vous entendez dire, il faut absolument que vous fassiez quelques jugements d'existence, voir la différence en vous entre la vie, c'est la vie en moi, et puis le fait que j'existe, l'être, j'existe. La vie, hein, bien sûr, il y a la vie là-dedans, et puis j'existe, l'être. Ah, quelle différence. Et de voir que la vie, ça foisonne là-dedans, ça grouille, c'est extraordinaire, je suis même capable de m'engloutir là, à l'intérieur de moi, pour voir ce foisonnement lumineux, mais en même temps très extraordinairement complexe de la vie en moi. Et la cause qui est source de cette vie, que je la découvre par l'induction, je découvre qu'il y a bien une source à cette vie. Quelque chose qui est au centre, mais en même temps source. Quelque chose qui fait l'unité de cette vie, puis en même temps la complexité de cette vie. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a un principe, il y a une cause. C'est l'âme. On appelle ça l'âme. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça je m'en fous complètement. L'essentiel c'est que vous saisissiez que vous avez de la vie et puis qu'il y a quelque chose qui fait que cette vie, elle a une source. Il y a quelque chose qui fait que vous vivez. Si vous n'êtes pas capable de faire cette induction très élémentaire, vous allez confondre Dieu et vous. Et c'est exactement ce qui se passe quand, par exemple, vous apprenez un enfant, ou à des gens, vous les voyez, « Ah, je vais prier. » Au pied du figuier, il se met, et puis, il va prier. Et puis, allez en avant. Ah, il s'engloutit à l'intérieur de lui-même. Oh là là, il se recueille. Et il s'engloutit. Il s'enfonce dans ces espaces diaphanes. De plus en plus lumineux, pur. Contact avec toi-même. Il est en contact avec lui-même. Ah, là j'adore. Tu t'adores toi-même. C'est extraordinaire ça. Non, ça y est, qu'est-ce que j'ai bien prié. Imbécile, mon Dieu. C'est épouvantable ça. Va vite te confesser. Je vais pratiquer l'idolâtrie. Pendant 25 ans. C'est extraordinaire. Confondre soi et Dieu. Tu nies. Dénoué. C'est impardonnable. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facultatif hein, de faire de la vie, même humainement. Tout de même. Alors, la cause, le principe de ma vie, c'est l'âme. Ça, mais si vous n'avez pas fait l'induction de l'âme, il faut que vous le fassiez, il faut que vous puissiez le découvrir. Ça. Ah, mais oui, bien sûr. Mais maintenant, hop, je ferme le volet, j'ouvre le volet d'un autre côté, je regarde l'être. Alors, vous connaissez, je ne sais pas comment il s'appelle ce Canadien, là. Canadien qui est extraordinaire comme il est. Hein? Il est génial. Alors bon, tu regardes l'être. Tu regardes, en fait, c'est rien à voir avec la vie. J'existe. Mais oui, bien sûr, j'existe. J'existe. Voilà. Qu'est-ce qui fait que j'existe? Réponse. Alors, première réponse. Qu'est-ce qui fait que j'existe? Dieu. Quelqu'un a une autre réponse? Quel est le principe? Quelle est la cause de ce fait que j'existe? Qu'est-ce qui cause ça? Quelle est la cause profonde du fait que j'existe? Lucia, Bon. Est-ce qu'il y a une autre cause? Oui. L'acte créateur de Dieu. Oui, l'acte créateur de Dieu. Donc. Oui, Dieu. Dieu cause de l'être. Dieu principe dans l'ordre de l'être. Oui, Dieu cause de l'être. Ousia aussi. Cause, principe. Ah, alors. Alors, oh les mecs! Alors, si je fais l'induction de la substance, et si je découvre le principe dans l'ordre de l'être, de ce qui est en tant qu'il existe, je découvre Dieu! Tatatra! Je n'ai découvert que l'ousia! C'est pour ça que ici, cette chose ici est importante aussi. N'est-ce pas? L'induction de la substance a quelque chose de très important. Pas parce que, effectivement, pourquoi est-ce qu'on tombe dans tant d'hérésies? Et du coup, dans l'angoisse. Parce que quand on a la foi, on s'investit dans la foi. Mais si de notre intelligence c'est tordu parce qu'elle n'est pas métaphysique, on tombera nécessairement dans des hérésies théorétiques et pratiques. Et du coup, l'angoisse apparaîtra parce qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour avoir la foi, une foi droite. Et on ne comprendra pas pourquoi on est dans les ténèbres. L'angoisse apparaîtra. Angoisse métaphysique, cette fois-ci. Alors, vous voyez que c'est quand même hyper important de ne pas confondre l'osia avec Dieu et de ne pas confondre l'âme avec Dieu. L'âme est bien une cause, un principe plus exactement, qui origine tout ce que je vis. Et l'âme, c'est moi. C'est moi, c'est pas Dieu. Mon âme est créée et donnée par Dieu. Maintenant, ici, quand je vois que j'existe, je regarde un autre aspect. Je ne regarde pas la vie, je regarde le fait que j'existe. Si quand je vois le fait que j'existe, je vous ai dit, faites, alors ça fait des années que je vous dis ça, faites des actes d'adoration. Parce que la cause artistique, efficiente et transcendante de votre être, c'est Dieu.
C'est la cause extrinsèque. C'est la cause extrinsèque.
Transcendante. La cause artistique, efficiente, transcendante dans l'ordre de l'être, c'est Dieu. Alors c'est pour ça que je vous dis, faites donc des actes d'adoration, faites, voyez que vous existez, et vous prenez conscience que là, c'est pas vous qui êtes l'origine du fait que vous existez. Ça, c'est sûr. De toute façon, vous n'avez pas besoin de vous torturer le cerveau. Vous voyez bien que ça ne vient pas de vous. C'est inaltérable, ça. Inaltérable. Et vous voyez que ça dépend de quelqu'un d'autre que vous. Prenez conscience et du coup, ah, ouais, mais oui, je suis là, ici, je touche une dépendance transcendante. Et si vous obéissez à cette prise de conscience, vous vous livrez et vous laissez attirer par cette cause transcendante. Artistique. Efficient. Actuelle, transcendante. Et vous vous livrez pour être attiré par le tout autre en vous donnant, en engloutissant en lui. Et vous découvrez la vie contemplative. La partie contemplative de votre intelligence peut enfin toucher quelque chose par elle-même en faisant cela. Je vous l'ai dit souvent. Et cette année, d'un seul coup, j'arrive avec mes gros sabots. Et puis je vous dis au mec, bon ben voilà, très bien, faites le jugement d'existence, j'existe, vous voyez bien la différence avec la vie. Bon, et puis faites le jugement d'existence, j'existe. Et vous rentrez, vous voyez, c'est différent. Vous rentrez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est qui fait que ce que fait que j'existe, existe? Comment ça se fait que l'être a quelque chose de si consistant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de si admirable, de si étonnant, que moi j'existe, ce qu'il y a de plus, je le perçois quelque part. Mon intelligence n'est pas idiote dans le jugement d'existence, elle perçoit qu'il y a quelque chose de très fort, là, puisque ça dépasse le point de vue de la vie. Bon, et justement, cette dépendance vis-à-vis encore d'un être transcendant, etc., montre qu'en effet, c'est là où je suis dans ma plus grande dignité. Et en même temps, dans le fruit de ces actes qui font que je deviens contemplatif, je m'aperçois que ma dignité suprême, je commence à l'acquérir. Donc je m'aperçois, à force de m'investir précisément dans cette dimension naturelle de l'intelligence, que je deviens, ça y est, un homme. extraordinaire. Tandis que si je m'engloutis d'un point de vue de la vie, mais l'éléphant aussi, il a une âme puisqu'il vit. Ah oui, mais alors, c'est étonnant que quelque chose que j'existe, l'être, c'est quelque chose qui est pas plus grand que tout, parce que c'est inséparé de l'âme, mais en même temps, je vois que les autres réalités existent. Je vois que l'univers existe, alors qu'il n'a pas d'âme. Il n'a pas de source de vie spirituelle, l'univers. Il n'a pas de source de vie intérieure, l'univers. Il existe, c'est tout. Il n'y a pas de vie. Le cosmos, le minéral, existe. Mais il n'y a pas la vie. Et le monde animal existe. Et le monde de végétal aussi, si vous voulez, existe. Et etc., etc. Voyez bien que toutes ces choses-là existent. Les fleurs existent. Les lapins, ça existe. Les oiseaux, ça existe, ça. Et vous voyez que l'être est en même temps la chose la plus noble, la plus extraordinaire que vous touchez dans le jugement d'existence, et en même temps c'est la chose la plus partagée dans toutes les réalités que vous constatez. Vous dites, mais c'est étonnant, c'est admirable, c'est extraordinaire, il y a quelque chose qui m'échappe complètement, il faut absolument que j'arrive à comprendre cette histoire. Si vous rentrez dans cette histoire, mais qu'est-ce que c'est que ce S, qu'est-ce que c'est que c'est... On est resté longtemps là-dessus. Hein. Pour échapper à Heidegger. Trois fois de suite, trois mois, on est resté là-dessus, uniquement là-dessus. Alors donc, je ne vais pas revenir, vous permettez. Mais du coup, je veux rentrer, je veux comprendre. Je veux revenir à la réalité qui existe pour comprendre de l'intérieur qu'elle existe. Et à ce moment-là, je vois, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que de l'intérieur, qu'est-ce qui explique qu'elle existe, qu'est-ce qui fait que... Quel est le principe? Je le vois que c'est admirable, je vois que c'est étonnant, je vois que c'est consistant. Mais donc je vois que je peux comprendre, je peux induire, je peux être conduit à l'intérieur de l'être concret pour induire la substance. Et pour voir, alors il y a quelque chose qui de l'intérieur fait que l'existence est en tant qu'être. Et ça c'est l'ousia. Et alors ça ici, je découvre donc à l'intérieur du S, concret, à partir du moment où mon intelligence interroge pour rentrer dedans, je découvre qu'il y a de l'intérieur de l'être quelque chose qui est source, principe formel, principe lumineux de l'être. C'est pour ça d'ailleurs que je peux le comprendre à ce moment-là. Et voyez bien que ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, mon intelligence pénètre dans le monde métaphysique et mon intelligence, ici, elle est totalement à son aise. C'est enfin le seul endroit où l'intelligence est à l'état pur. Elle n'est pas phagocytée, parasitée par le virtuel ou par l'accidentel ou par l'essentiel, le formel. Le fait que je sois un homme, ça compte plus. Que je sois une femme, ça compte plus ici. Que je sois un éléphant, ça compte plus. J'existe. C'est extraordinaire. L'osia. Et ici, c'est un principe. C'est donc que j'ai découvert ici, non pas la cause artistique, efficiente, transcendante, mais j'ai découvert un principe immanent. Et selon la forme. Alors, moi, je veux bien, j'aime pas donner les définitions. Parce qu'une définition, c'est pas une induction. Donc, j'aime pas. Mais si vous voulez, effectivement, c'est quand même un principe. Mais c'est de l'intérieur de l'être, parce que je reviens au jugement d'existence et je saisis que l'intérieur de l'intérieur de l'être qui subsiste. Vous voyez, qu'il individue, qu'il rassemble tous les accidents. Et à ce moment-là, il est source de toutes les déterminations, source de tout l'essentiel, tout source du sujet, source des accidents. Et l'individu est unique en son genre, est un mystère qui lui-même appelle un approfondissement, un dépassement. Mais là, il m'échappe. Je suis obligé de me poser la question, il y a sûrement quelque chose d'autre que l'ousia. Il n'y a pas que la substance qui explique que l'être existe en tant qu'être. Il n'y a pas que ça. Alors, quelles sont toutes les formes d'investigation de l'intelligence pour découvrir un principe? Et il y a cinq. Et il y a la cause, six même, Enfin, il y a. Quand tu dis, tu demandes qu'est-ce que c'est qu'une femme, alors tu dis, qu'est-ce que c'est qu'une femme. Tu rencontres une femme, mais qu'est-ce que c'est Adam, tu sais. Et tu vas être vraiment étonné. Tu es habitué à voir des hippopotames, des albatros, etc. Et puis il voit une femme. Tu dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'être? Réponse Ousia. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Extraordinaire. Ah, c'est merveilleux ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je veux voir formellement ce que c'est. Exactement ce que c'est. Ça, c'est la cause selon la forme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous voyez, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Mais on se pose aussi la question selon la forme. Mais oui, mais vous ne verrez jamais une forme si elle n'a pas une certaine limite qui lui donne son apparence, la matière. C'est toujours dans la matière, le pain. Il y a une forme de pain, mais c'est à travers une matière. Bon, il y a une matière. La statue, bon, elle est en plâtre. Etc. Bon, alors vous dites, ah oui, attends. Alors tu dis, est-ce que c'est Ève? Il aurait très bien pu dire, c'est peut-être une apparition. Il était habitué aux apparitions, hein, Adam. Habitué. Donc, il est très habitué aux apparitions. Il dit, c'est peut-être une apparition. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher Ève. Elle dit, en quoi elle est faite? En quoi elle est? C'est pas seulement qu'est-ce que c'est, mais en quoi elle est? Ah, c'est l'os de mes os. En quoi elle est? En quoi? Cause matérielle. Cause matérielle. Quand tu veux connaître une chose, tu interroges toujours, comme pour tout, hein, vous n'avez qu'à regarder, pour tout, hein, pour tout, vous vous posez toujours au moins 5 questions si vous voulez faire le tour pour connaître quelque chose, une réalité. La cause matérielle, en quoi? Mais en quoi? En quoi ce n'est pas qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une alliance, en quoi? Oh, bah. C'est du toc, pas de peau. Bon, ça n'a pas beaucoup de poids. Voilà. Cause matérielle. En quoi? Et là, vous posez aussi la question, mais d'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient, Ève? Elle m'est donnée par Dieu. D'où ça vient? Cause originelle, cause efficiente. Qu'est-ce qui a efficiente? Qu'est-ce qui a fait, voyez, efficiente. Qu'est-ce qui a fait que c'est ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Elle est magnifique, cette statue. Elle est en plâtre. C'est Marie. Ah, c'est Marie. Je touche. Ah, ben, c'est en plâtre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'artiste de l'origine. Bon, très bien. Bon, éventuellement aussi, entre parenthèses, cause exemplaire. Mais ça, je laisse tomber. C'est autre chose. Cause exemplaire, parce qu'on peut dire, oui, mais l'artiste a fait ça, mais il a pris quel modèle? Vous voyez que c'est lié quand même assez à la cause efficiente, c'est lié à la cause formelle aussi, quelque part, c'est lié pratiquement à la cause matérielle, parce que l'artiste, il l'a fait en fonction précisément de ce qu'il voulait faire, à partir de la matière qu'il avait. Enfin, peu importe, je laisse tomber. Il y a également, il dit, mais, oui, mais enfin, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Bon, c'est pourquoi? La femme, là, c'est pourquoi? Ça sert à rien. Hein? Adam, il devait se dire, bon, bah. Il ne s'est même pas posé la question. C'était clair pour lui qu'il y avait une finalité à travers ça. C'était pour. C'était pas pour elle-même. C'était pas pour lui. C'était pas pour Dieu. Alors, pourquoi? C'était pour l'humanité intégrale. C'est pour autre chose que lui, pour autre chose qu'elle. Pour autre chose que Dieu, mais qui puisse être ensuite dans un dépassement. Pardon. Ensuite, possible à la gloire, à la glorification divine. Vous voyez, en vue de quoi? Pourquoi? Cause finale. La cause finale, c'est évidemment la cause perdue. Aujourd'hui. La cause perdue, c'est celle-ci, c'est la cause finale. Quelqu'un qui a perdu la cause finale, c'est fini. sa vie est terminée. Quelqu'un qui n'a plus de finalité, c'est terminé. Il est bon pour être mis en pâture au psychanalyste. Plus de finalité. La cause finale. Pourquoi? Alors d'où ça vient, cause efficiente? D'où ça vient? Et pourquoi? Pour quoi? Prost, vous voyez, c'est vers quoi ça va, ça? Quel est son accomplissement? Quelle est sa perfection? Quelle est sa finalité? Quel est son but? Quelle est sa vocation? Ah, vocation, attention, vocation, c'est en même temps cause formelle, et cause finale, et en même temps cause efficiente, parce que c'est dans le principe qu'on a la vocation. Ah, vous voyez, ah, la mémoire ontologique, elle récapitule, je vous signale, les quatre causes. C'est un autre problème, c'était par rapport à des discussions qu'on avait eues il y a 2 ans. Alors, dans la première cellule, quand Dieu, cinquième cause, artistique, efficiente et transcendante, cause l'être en moi, me donne la vie spirituelle et fait que j'existe, eh bien à ce moment-là, dans cette cause, dans cet acte créateur de Dieu, dans la première cellule, ce que nous avons vu donc en octobre et en novembre, rappelez, avec les ébranlements, les 14 ébranlements de la cause métaphysique originelle dans notre existence, voyez, eh bien, nous avons vu ça, eh bien, il rassemble, dans cet instant de la première cellule, les 5 causes sont présentes dans un seul acte, et elles sont rassemblées dans la lumière naturelle et éternelle qui imprime notre âme spirituelle dans notre corps et que nous conservons comme une exis perpétuelle. Exis, ça veut dire un état habituel d'impression à la fois créée et incréée. Ce que nous avons osé appeler mémoire ontologique. Bon. Pardon ?
C'est une cause efficiente. Pourquoi vous parlez de 5 causes ?
Oui, parce qu'ici, il y a une cause transcendante. Et donc, il y a une cause extra. Ici, toutes ces causes sont immanentes, quelque part.
La cause efficiente est extérieure.
Ah non, elle est pas immanente.
Quand je crée une statue, je suis extérieur à la statue.
Pas toujours, oui.
C'est par rapport au mouvement. La cause efficiente, c'est par rapport à son mouvement, c'est par rapport au métaphysique.
Oui, mais je dis quand même que Dieu... Oui, parce qu'il y a des causes du devenir... Tu peux dire, il y a une cause dans l'ordre du bien. Mais ça, c'est pas absolu. Tu peux pas faire ces partages de manière absolue, parce que le bien se retrouve partout. Il y a une cause dans l'ordre du bien. Il y a une cause dans l'ordre du vrai. Dans l'ordre de la lumière. Il y a une cause dans l'ordre de... Il y a une cause dans l'ordre du devenir, si tu veux. Hein? Le devenir, on va le mettre ici. C'est que, bon, le Big Bang, tu vois, bon, très bien. Il y a une cause dans l'ordre métaphysique.
Oui, mais
il y a une cause dans l'ordre de ce qui dépasse le temps, dans l'ordre de l'éternité, il y a une cause.
Donc, en fait, la troisième cause, la quatrième cause de l'éternité, vous l'intégrez dans le devenir, donc dans l'aspect temporel, et évidemment, dans l'escalade à cause de...
Ici, on est dans le temporel, tout ça.
Oui.
Bon, enfin, peu importe ces quatre causes ici. Simplement ici, vous voyez ce qu'on se pose, la question qu'on se pose pour essayer de comprendre cette histoire d'exister. Bon, ici, il faut quand même qu'on essaye d'être un tout petit peu plus concret. Si vous faites le tour de toutes les causes, bon, eh ben, je vais laisser tomber, je reviens au jugement d'existence, je vais laisser tomber, s'il vous plaît, Dieu. Je veux regarder l'être en tant qu'être et en lui-même, de l'intérieur de l'être. Ça va? Donc, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire, c'est pas ça que je vais contempler, c'est pas ça que je vais saisir, c'est pas ça que je vais regarder. Ça va? Donc, je laisse tomber la cause selon la forme de ce qui est, puisque je l'ai déjà découvert, c'est l'ousia. J'ai découvert à travers l'ousia qu'il y a quelque chose qui appelle, qu'il y a quelque chose de plus, que mon intelligence commence à s'intéresser. Je suis rentré dans la mine et il faut que je trouve les pépites, tu comprends? Ça y est, je suis rentré, il y a un tas de trucs. Il y a autre chose, quelque chose qui dépasse la simple découverte de l'entrée dans la mine, vous comprenez? Si je puis dire. Bon, alors, et puis alors du coup, j'ai allumé mon casque, ça y est, j'ai la lumière, je vois que c'est formidable, cette grotte de la Clamouse, bon. Et c'est un champ extraordinaire, tout, et puis à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a une possibilité de dépassement extraordinaire. Il y a autre chose à découvrir. Alors, et en quoi est l'être? En quoi existe? Immatériel.
Réponse, pas de réponse. Il n'y a aucun principe, selon la matière, de ce qui est en tant qu'il existe. Ça, je saisis tout de suite. Mais d'où ça vient ? D'où ça vient ?
Pour un coup de matériel, ça dépend. Parce que si je fais la réalité sur une réalité quantique, réalité matérielle,
oui.
Qui en quoi est-ce pierre, est en pierre ?
Ah oui, mais alors si tu dis... Alors il y a une réponse, quand je dis ceci, la pierre est, je dis, ah, c'est en pierre.
C'est le ceci.
C'est le ceci, c'est pas le est.
Ouais, c'est ça. C'est pas l'être de la pierre.
Voilà.
C'est la pierre qui est en, oui, mais les deux...
Alors, si tu mets que c'est un être fini, puisqu'il est pierre, tu tombes dans Occam. Mm. Ah, 1332, 666 multiplié par 2. C'est.
Non, mais la pierre, elle a une cause matérielle, la pierre.
Mais la pierre, je m'en fous, je regarde l'être.
Oui, mais l'être sans la pierre, vous pouvez pas.
Faire. Ça fait rien, je m'en fiche, je suis quand même capable de distinguer ce qui relève du est, ce qui relève du ceci. La pierre relève du ceci, point à la ligne. Je vois que l'être, c'est immatériel, pas de cause matérielle, ça c'est clair, je crois que non. Si quelqu'un n'a pas compris, il viendra me voir dans mon bureau et puis il donnera un bien coup de pied dans les fesses, il verra que mon pied est avec bien matériel. Bon. Alors, vous savez. Parce que là, pardon. Bon. Ensuite, moi, c'est du grand. Ça, c'est de la pédagogie, ça. Alors, ça, c'est pour faire rentrer la métaphysique par l'arrière. Alors, vous avez la cause efficiente. La cause efficiente, oui, mais attention, la cause efficiente, c'est que. La coefficiente, c'est ce qui fait qu'une réalité que vous voyez, elle a un avant, elle a un après. Elle devient, il y a une croissance, elle change, il y a un mouvement. Et je m'aperçois justement, la première chose, c'est Lousia qui m'a fait découvrir ça. Quand je suis entendu dire qu'il y a quelque chose qui subsiste, qui n'est pas en mouvement, qui est en dehors du devenir, qui ne relève pas du devenir. D'ailleurs, pour qu'il y ait une croissance dans l'ordre du temps et de l'espace, il faut la matière. Je sais déjà... que l'être est en dehors de la matière, il n'y a donc pas de devenir, il n'y a donc aucune, rien à comprendre du point de vue de l'être, du côté de la cause efficiente. Rien. Alors, il y en a qui peuvent s'amuser à le faire. Qui est-ce qui s'est amusé à faire cela ? Lénine. Et ici ? Averroès. Sri Aurobindo. Terrible, terrible, le mental des cellules, ça te prême. Bon, n'est-ce pas ? Terrible, terrible de confondre ça. Parce que à ce moment-là, si je mets un effet, et c'est terrible au niveau conséquences sociales, vous voyez bien que là aussi, parce que on est tous des petits Lénines, hein, si on n'a pas fait la métaphysique, hein. Alors on fait une petite société familiale, on se marie, tu sais, et puis, matérialisme dialectique. C'est extraordinaire de mettre que la métaphysique, c'est dans la praxis, la plus-value par rapport à la matière transformée par l'homme. C'est extraordinaire, ça. Parce que l'homme, et finalement, ce qui fait l'être métaphysique de l'homme, c'est cette praxis, cette relation avec la matière. Parce que dès qu'il est en relation avec la matière, il est en relation avec ce qui fait qu'il subsiste en tant que tel. En tant qu'homme. Et du coup, comme il subsiste en tant que tel, c'est ça sa noblesse, cette relation du prolétariat avec la matière. Et puis, alors, du coup, c'est cette relation dialectique avec la matière qui fait cette plus-value de l'homme et de l'humanité. C'est extraordinaire, c'est le travail, l'efficacité, le bien commun dans sa plus-value. Vous voyez cette relation. Alors, la matière ennoblit l'homme puisque l'homme est matière dans sa noblesse la plus grande. L'être, c'est la matière pour l'homme. Voilà, c'est Lénine, ça, vous voyez. Réduire. L'être à la matière, à la cause efficiente, à la cause matérielle, Averroès, Lénine. Et vous avez aussi Sri Aurobindo, bien sûr. C'est beaucoup plus du côté de la cause efficiente. Mental de cellules. Ah, ça, c'est embêtant parce que du coup, je ne vois plus ce que c'est que la mémoria théi, la mémoire consciente d'elle-même du point de vue métaphysique dans l'ordre de l'être. voyez. Alors à ce moment-là, je tombe à cause de Sri Aurobindo, ni mental des cellules de Satprem, je tombe dans le métapsychique du mental des cellules. C'est terrible, ça. Alors, vous avez ici la clé du nouvel âge qui est là. Alors, il ne faut pas, parce qu'il ne faut pas que notre petite famille, notre petite communauté, nos voisins, etc., on soit dans la dialectique matérialiste. Ça, c'est la mort, ça, de l'esprit. C'est la mort. Le but, d'ailleurs, de Lénine, c'est de tuer à tout jamais l'esprit. Parce que ça, la dialectique de l'esprit est une dialectique bourgeoise. Ce qui est vrai. C'est notre problème. Justement, nous, on ne fait pas la dialectique de l'esprit. On fait la vérité, la métaphysique. C'est pas pareil. Dialectique. Dialectique, il y a deux. Tandis que métaphysique, c'est l'unité. Ah, alors, il ne me reste plus qu'une question. J'en ai plus qu'une autre, une dernière. Et je me dis, mais qu'est-ce, non pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, mais quelle est la finalité? Qu'est-ce qui fait la perfection? Qu'est-ce qui fait l'achèvement? Qu'est-ce qui fait l'accomplissement? Qu'est-ce qui fait, de, au-delà de l'ousia, de l'être en tant qu'il existe, de l'intérieur même de l'être? Là, ici, si vous arrivez à vous poser cette question, réellement vous-même, hein, pas seulement l'entendre dire, mais vous-même, vous faites le jugement de l'existence. Mais qu'est-ce qui fait que l'être est aussi quelque chose d'aussi parfait? Vers quoi? Quel est son accomplissement? Ah, vous allez commencer à pouvoir voir que, en effet, à chaque fois que vous voyez que quelque chose existe, elle existe toujours dans des états différents. À chaque fois que quelque chose existe, existe. Le coquelicot existe. L'amour existe. Mes puissances de vision existent. Mais c'est dans des états différents. Ma vie existe, mon âme existe. Mais elle n'est pas toujours dans le même état. Tout ce qui existe, existe à chaque fois dans des états différents. Des états de perfection et des états d'imperfection. Par exemple, du point de vue de la vie, j'ai bien la vie en moi, et puis tout ça s'adore. Et d'un seul coup, je suis éveillé. Ma vie est actuellement éveillée. L'âme existe en acte, et quelquefois elle existe en puissance.
Elle est opérante.
Oui. L'opération, elle est quelquefois endormie, elle est en puissance, et d'autres fois, l'opération existe en acte. L'opération existe quelquefois en puissance, c'est-à-dire je suis capable de comprendre, et d'autres fois je comprends en acte. Oui, c'est pareil. Je suis endormi, je suis éveillé. Mon état de vigilance vivante est en puissance, et quelquefois est actuel, est en acte. Tout ce que je vois qui existe est dans des états différents, c'est le même être, c'est la même ousia, et pourtant, quelquefois, j'existe, mais je suis dans un. J'existe pourtant bien actuellement, mais il y a quelque chose à l'intérieur de l'être qui fait que je suis à la fois en puissance et à la fois en acte en tant que j'existe. J'existe en acte, j'existe en puissance. Il y a quelque chose, c'est nous, même du point de vue de la substance ousia. Il y a quelque chose qui relève de la puissance, quelque chose qui relève de l'acte. Avant même que mes parents ne m'aient créé, c'était possible, parfaitement possible, que j'existe. Et depuis la conception, j'existe en acte. Et il y a, donc quelque part, vous voyez, du côté des puissances aussi, c'est possible que je puisse aimer, mais je n'ai jamais vraiment aimé. Donc j'ai bien cette opération de l'amour en puissance. Tous, nous avons l'opération de l'amour en puissance. Et l'amour existe, hein. Et les puissances d'amour existent. Les puissances, on est tout un ami, les puissances d'amour, la puissance de mémoire ontologique existe. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi, n'est-ce pas? La puissance de vie contemplative existe, mais je ne contemple pas toujours en acte. Et pas toujours en acte. Quelquefois, je peux voir les choses, et puis dès que mes yeux s'ouvrent, je vois. À chaque fois que je vois quelque chose qui existe, mais attention, je ne m'arrête pas au ceci, je ne m'arrête pas au fait que c'est la vision, au fait que c'est l'éveil, au fait que c'est une puissance spirituelle, je ne m'arrête pas au fait de l'apparition de la substance, non, non. C'est tout ce qui existe, je vois qu'il y a une loi qui fait que de l'intérieur de est, il y a quelque chose qui est actuel et il y a quelque chose qui est actualisé. Il y a quelque chose qui relève de la puissance, quelque chose qui relève de l'acte. Et si éventuellement je suis, on pourrait rajouter aussi cela, si éventuellement je suis en lien avec le Créateur, si je suis en même temps en lien avec le Créateur, je suis capable de toucher l'être de l'être premier, je m'aperçois qu'il n'y a rien en lui qui est en puissance, il est actuel complètement, il n'y a rien qui relève d'autre chose que de... Tout est actuel en lui, il n'y a rien de potentiel en lui. Il n'y a aucune capacité non remplie en lui, non actuée en lui. Il n'y a aucune potentialité en lui. Il n'y a aucune possibilité d'autre chose en lui. Tandis que nous...
C'est vrai que ce n'est pas une
entelligie. Tandis que nous, il y a toutes ces perfections actuelles, mais elles sont enracinées dans quelque chose de limité par la puissance, par l'être en puissance. Et donc on est tous, nous, toutes nos perfections métaphysiques sont dans l'entelésie, tandis que, effectivement, mais ça c'est un petit raccourci que je viens de vous faire, et je m'en excuse, c'est pas très très juste, mais ça fait rien, c'est parce que j'essaie de vulgariser, mais tandis que, mais puis vous êtes habitué à avoir touché l'existence de l'être premier, et vous voyez bien que l'énergeia, c'est-à-dire l'être premier, Dieu, lui, il n'y a rien qui est en puissance en lui. Tout est actuel, c'est l'acte pur. C'est l'être acte pur. Il n'y a rien de limité, rien de potentiel en lui, aucune capacité à remplir en lui. On ne peut rien rajouter à Dieu, rien. Il faut rendre gloire à Dieu, tu n'as rien à rendre. Si tu le comprends mal, et pourtant il faut bien rendre gloire à Dieu. Mais tu ne rajoutes rien à Dieu quand tu lui rends gloire. Et il n'y a aucune possibilité autre que lui-même en dehors de lui-même, aucun possible en lui. Il n'y a aucun type d'état d'endormissement en Dieu. Tout est éveillé en lui. Tout. Et il n'y a, etc. Voyez bien, ça, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun enracinement dans un être limité en lui. C'est pour ça que quand Descartes a dit Dieu, c'est l'être infini, c'est-à-dire non fini, mais le fini. C'est quoi l'infini? Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est un petit c'est un truc hyper important, ça, ce que je vais vous dire, je crois. Vous pouvez ouvrir parce que ça va aérer un peu. C'est possible. Et puis, je vais vous faire aérer quand même 5 minutes. Et regardez, je termine là, et puis après, on va faire l'induction de l'acte tout de suite après. J'espère qu'on va réussir à la faire. Moi, je crois que je l'ai fait 5 fois dans ma vie seulement. Donc, j'espère qu'on va pouvoir réussir à la faire la 6e fois ici. Oui. Quand Descartes dit que Dieu est l'être infini, mais le fini, c'est une quantité qui, au-delà de laquelle, on peut toujours encore aller, elle ne se termine pas, elle se complète tout le temps. Elle est non finie. Elle, vous voyez, elle est non finie. Un être infini, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un être infini. Quand Descartes dit ça, qui divise, à la suite de Occam, ton copain là, que entre l'être fini et l'être infini, oui, parce que tu dis que la pierre, bon, peu importe. Le. Bon, là, vous voyez, l'infini, c'est ça, c'est que tu n'as jamais fini de continuer à aller plus loin. Le nombre est infini, parce que tu n'as jamais fini de continuer. Mais Dieu n'est pas le nombre. Dieu est acte pur. Vous voyez bien. Alors quand ils disent ça, si tu n'as jamais fini, c'est une capacité qui ne continue pas,
Donc il est un petit peu en puissance, si c'est ça. Donc il n'est pas acte pur, donc il n'est pas Dieu.
Et on vit depuis 5 siècles avec ces saloperies que Dieu est un être infini. C'est-à-dire, je vis avec l'impossibilité absolue de vivre de l'être jusque dans son épanouissement, dans son actualité, dans son achèvement. Et donc une impossibilité spirituelle aussi de vivre de la perfection dans l'ordre du vrai, de la perfection dans l'ordre du bien. Dieu n'est pas un être infini et nous ne sommes pas des... Oui, c'est vrai, il a une manière d'exister qui est sans limite. Ça oui. C'est pas pareil. Alors, donc vous voyez bien que tout ça, ça a l'air idiot, mais voyez, le péché de Descartes, le péché de Occam, qui est stigmatisé par une congrégation nouvelle, je ne sais pas si vous avez encore entendu parler, une communauté nouvelle, stigmatisé comme étant vraiment le péché de l'humanité depuis les 20 derniers siècles, c'est Occam qui est désigné, et qui dit, infini, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta perversité intellectuelle qui est infinie, parce qu'en faisant ça, tu détruis toute possibilité pour la découverte de notre intelligence dans sa vie contemplative d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Alors à ce moment-là, toute grâce de Dieu venant sur toi ne peut pas réparer un tel désastre. Parce que la foi ne pénètre que dans une intelligence qui est normale. Et si mon intelligence s'est tordue à cause d'hérésies métaphysiques comme celle-là, elle ne passe plus. Et c'est ce qui explique que quand l'Église enseigne la foi, la doctrine, quand je lis la Bible, je sais que c'est ça, mais ça ne me parle plus. Et les curés, ils ont beau proclamer la parole de Dieu, et le pape dire des trucs absolument extraordinaires. Oh, c'est les plumes d'un canard. Pourtant, j'ai fait l'effort pour comprendre. Mais c'est mon intelligence qui est bousillée. C'est extraordinaire. La foi, lumière surnaturelle, ne pénètre que dans une intelligence en acte, métaphysiquement. Mais on a 4 siècles d'éducation perverse de l'intelligence. Alors, c'est pour ça qu'il faut rétablir ici cela. Donc, nous allons donc essayer de voir qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est donc que ce principe selon la fin de ce qui est en tant qu'il est.